France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20. Bonjour Olivier Wieborka.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, professeur à l'École normale supérieure Paris-Saclay. On a appris hier en fin de journée la mort du dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, à 101 ans. C'est vraiment une page d'histoire qui se tourne. Cette expression est souvent galvaudée, mais là elle se justifie.
Oui, parce que c'est le dernier compagnon de la Libération et l'ordre des compagnons de la Libération est vraiment un ordre extrêmement important. C'est la chevalerie de la résistance intérieure et de la résistance extérieure.
Qui l'a créé cet ordre ?
Donc c'est le général de Gaulle qui a créé cet ordre en novembre 1940, donc pendant la guerre, au tout début de la France libre, et il voulait honorer les chevaliers qui au fond l'aidaient. Au départ d'ailleurs, c'est intéressant, il voulait baptiser cet ordre les Croisés, et René Cassin qui était plutôt de gauche, ancien combattant et conseiller juridique du général de Gaulle, lui a dit qu'il y avait quand même, dans la France libre, des juifs et des musulmans, et que le terme de croisé pouvait être maladroit, donc il a utilisé le terme de compagnon.
Donc la liste a été bouclée dès cette année 40, ou au fur et à mesure de la guerre, il a rajouté des noms ?
Alors bien entendu, il a rajouté des noms au fur et à mesure de la guerre, et il a clos l'ordre 1946, donc c'est un ordre très sélect, hein. Vous avez à peu près, vous avez 1038 compagnons de la Libération, donc c'est vraiment l'élite de l'élite, et il ne l'a rouvert que deux fois, pour honorer Churchill et pour honorer George VI.
Et dans ces 1038, c'est ça vous dites, 1038
oui.
Personnes, il y a quoi, il y a que des militaires, que des hommes ?
Alors, l'ordre de la Libération devait honorer tous les résistants. Mais vous avez quand même un petit biais gaulliste. Le petit biais gaulliste est que ceux que l'on appelle les résistants de l'extérieur, c'est-à-dire tous les gens qui ont combattu le plus souvent militairement au grand jour, ont été très largement favorisés sur les résistants de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui combattaient dans les mouvements ou les réseaux. Et donc il y a une disproportion. C'est un ordre qui est beaucoup plus gaulliste, si vous voulez, qu'œcuménique. Et par ailleurs, c'est un ordre très macho, il faut le dire, puisque vous n'avez que 6 femmes, alors que la participation des femmes a été beaucoup plus importante, bien évidemment, que en gros le 6 pour 1000 que consent l'ordre de la Libération.
Et il n'y a pas que des personnes aussi dans cette liste, il y a aussi quelques communes et même quelques navires militaires.
Oui, tout à fait. Vous avez des unités militaires, vous en avez 18, et puis vous avez 5 communes qui ont été honorées du titre de compagnon de la Libération, dont Paris. Bien sûr, mais aussi Vassieux ou Grenoble.
Et donc, Hubert Germain, qu'a-t-il fait, lui, pour être nommé dans cet ordre ?
Alors, Hubert Germain, ce qu'il y a d'incroyable, me semble-t-il, c'est son courage. C'est un courage absolument fou. Alors, c'est un courage fou qui aussi découle d'une certaine personnalité. C'était un jeune homme indiscipliné. Alors, c'est un jeune homme indiscipliné, mais qui, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ou plus exactement au moment de la débâcle, est en train de passer l'école navale. Donc, c'est un indiscipliné qui va dans l'armée. Bon, mais malgré tout, c'est une forte tête. Il ne supporte absolument pas l'idée de la défaite. Il ne supporte pas l'idée d'être militaire pendant la défaite. Et donc, il rejoint immédiatement le général de Gaulle. Il s'embarque le 24 juin 1940.
Donc, il passe pas le concours de l'école. Donc il passe pas le concours de l'école
non,
qu'il est en train de passer.
Il est en train de le passer, comme Philippe de Gaulle, le fils du général, et il remet copie blanche parce que pour lui cette idée de défaite est absolument intolérable.
Ah, il s'en va en pleine épreuve. Ok.
Voilà. Donc il a cette force de caractère. Il a entendu parler du général de Gaulle par son concierge. Il arrive à Liverpool. Logiquement, il aurait dû rejoindre la marine, mais en fait, il va rejoindre par connexion familiale. La Palestine, servir au quartier général du général Le Gentilhomme. Et puis ensuite, eh bien, il va participer à toutes les grandes campagnes de la France libre.
Et c'est ça qui est dingue avec lui, hein. C'est que vraiment, c'est une personne emblématique. Hein.
Alors, c'est une personne tout à fait emblématique à bien des égards. D'abord, s'il a participé à tous les grands combats de la France libre, qui ont été des combats atroces, et atroces pour différentes raisons. Ils ont été atroces d'abord parce qu'en Syrie, 1941, vous avez un affrontement fratricide entre les forces fidèles au général de Gaulle et les forces du général Dens fidèles à Vichy. Donc ça emprunte la forme d'une guerre civile et ça a été un conflit moralement très douloureux. Ensuite, il participe à la bataille de Bir Hakeim en 1942 où les forces du général Kunig sont chargées de retarder les forces de Rommel qui essayent de filer plein est vers l'Égypte. C'est donc un combat de retardement qui aurait dû durer une semaine, qui dure beaucoup plus. Et là, c'est un combat absolument atroce où on voit la mort. Parce que au moment où au fond il faut rompre le combat, eh bien les combattants sont livrés à eux-mêmes dans le désert, sans nourriture, sans eau. Bon, on pourrait se dire qu'il s'arrête là. Non, il continue à participer aux campagnes de la guerre du désert, notamment en Tunisie, et ensuite, eh bien il participe à la campagne d'Italie. très importante pour les généraux de Gaulle, parce que c'est une manière de montrer que la France met au service des alliés des combattants, et puis enfin à la campagne de Provence.
Et après-guerre ?
Alors après-guerre, Hubert Germain, comme certains, entame, comme certains anciens de la France libre, entame une carrière politique de deuxième division, j'ai envie de dire. Il est d'abord maire, ensuite il sera député, et ensuite il sera ministre. Alors avec une certaine coquetterie, il dira que les honneurs ne lui ont jamais plu. Voilà, il fait une carrière, c'est pas un homme de premier plan, comme un autre Français libre extrêmement célèbre, Pierre Messmer, hein, mais c'est quelqu'un qui a joué.
Et Hubert Germain, on l'a appris, sera enterré au Mont Valérien, un lieu là encore éminemment symbolique.
Là, il ne l'a absolument pas choisi. L'Ordre de la Libération avait prévu que le dernier compagnon serait enterré dans le dernier cercueil vide du Mont Valérien. Et c'est ce qui arrive à Hubert Germain, et c'est ce que craignait Daniel Cordier, qui vient de disparaître. Il avait très peur d'être enterré dans le Mont Valérien, parce que voilà, c'est un endroit très intimidant, très froid.
Et aujourd'hui, hein, puisque Hubert Germain, donc dernier compagnon, vient de mourir, que nous reste-t-il pour faire vivre cette mémoire ? Il nous reste par exemple le musée de l'Ordre de la Libération qui se trouve aux Invalides.
Oui, il y a le musée de l'Ordre de la Libération. Vous avez également le Mont Valérien, il faut le rappeler, que l'on visite, y compris la crypte, et qui est un lieu très impressionnant et très bien mis en valeur. Et puis vous avez tous les musées, les livres, les documentaires, donc la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, et son histoire va pouvoir vivre par-delà la disparition des témoins, aussi emblématique soit-il.
Et grâce à des historiens comme vous, merci beaucoup Olivier Wieworka, professeur à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Vous étiez l'invité du 5-7.